acteurs du développement de l'économie en Lozère, le Conseil Général soutient le tourisme et les animations de l'été. Retrouvez toute l'actualité du Conseil Général sur lozère.fr. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les estivales de l'été sur 48 FM.
Alors il est 9h, le soleil est déjà présent dans les rues de Mende, on va partir ensemble directement pour ces estivales au Pont de Montvert pour le Festival des métiers d'art du Pont de Montvert. Avec 48 FM qui programme Pink Martini.
Les estivales de 48 FM.
Voilà, après un peu plus d'une heure de trajet en partance de Mende, nous arrivons au pont de Montvert. Donc on va chercher le parking visiteur, voilà, qui est indiqué. Donc il va falloir traverser le pont et longer le Tarn sur la droite. Alors à ce qu'on m'a dit, c'est à environ à peu près 500 mètres. Voilà, c'est ça. Et voilà, on arrive au parking, on va se garer. Voilà, et on va se rendre maintenant directement en mairie pour retrouver le maire du Pont de Montvert et la présidente de l'association organisatrice de ce festival. Alors, nous sommes avec le maire du village, Alain Jaffard. Alain Jaffard, bonjour.
Oui, bonjour. Donc, maire du Pont de Montvert, petit village de Sévenol au pied du versant sud du Mont Lozère, traversé par le Tarn qui prend sa source. C'est donc un village de Sévenol, un plein cœur du parc national des Cévennes et sur le territoire classé à l'UNESCO au titre de l'agropastoralisme. Les Cévennes donc, ont toujours été une terre d'accueil. Ils ont accueilli ces dernières années des artisans de métiers d'art qui, il y a quelques années, ont créé une association et qui a proposé à la commune, d'organiser une manifestation. Et c'est ainsi qu'est né le Festival des métiers d'art au Pont de Montvert.
Alors quel est le lien avec ce territoire? Pourquoi les métiers d'art en fait ici?
Les métiers d'art parce qu'on avait accueilli ces artisans, parce que ce sont aussi, les Cévennes sont donc un territoire d'artisans et de ces métiers, ils sont fortement implantés, d'art ou artisanat classique. Et donc je crois que c'était l'occasion de les mettre en valeur, c'était aussi l'occasion de mener des partenariats, des échanges avec la population. Et la particularité de ce festival, c'est que les 79 artistes qui sont accueillis aujourd'hui sont accueillis dans les locaux prêtés, mis à disposition gratuitement par les habitants du Pont de Montvert. Et donc ça permet un échange entre les artistes et les habitants, un échange aussi avec les artistes et les visiteurs, et notamment à travers, bien sûr, la visite des stands, mais également au travers d'ateliers qui sont proposés pour découvrir et s'initier à ces techniques de poterie, de travail du cuir, etc.
Alors, vous les trouvez où, tous ces artisans? Parce qu'ils viennent d'un peu partout en France, voire d'ailleurs.
Alors, ces artisans, ils viennent, effectivement, c'est grâce à la MAC. La MAC, qui a, je dirais, un réseau, et qui, donc, avait un réseau déjà avec des Italiens, puisque la MAC est jumelée, travaille en partenariat avec une association qui s'appelle Art Inferia, qui est une association qui mène le même travail en Italie, à San Sebastiano di Curone, et également avec des partenaires hollandais. Et donc c'est à travers ces réseaux que la MAC réussit à inviter les artisans qui viennent exposer. Preuve de vitalité de ce festival, c'est qu'il y a plus de demandes pour exposer que ce qu'il y a de place à offrir.
D'accord, et on peut dire que donc l'échange, vous en parliez tout à l'heure, c'est un vrai moment convivial pendant ces 3 jours ici qu'on peut vivre au Pont de Montvert.
Alors, effectivement, le festival, c'est un vrai moment convivial et d'échange avec les artisans. Donc, c'est la mise en valeur de ces métiers d'art. C'est aussi pour nous un moment fort de la saison estivale. Et donc, comme je le disais, c'est aussi la possibilité, comme tous les ateliers sont dispersés dans le village, pour le visiteur de se créer un itinéraire et de baguenauder, de se promener à travers les ruelles du village et de le découvrir ainsi.
D'accord, merci Monsieur le maire.
Merci, je tiens simplement je souhaiterais remercier, bien évidemment, toutes les organisations, tous les organismes qui nous aident dans cette organisation, la région, le département, le parc national, ainsi que tous les sponsors locaux qui appuient cette manifestation.
Donc voilà, nous sommes avec Josiane Dulac, qui est présidente de l'association qui organise cette manifestation. Peut-être pour commencer, un mot sur votre association?
Bonjour à tous, nous sommes donc l'association des métiers d'art en Cévennes. Nous existons depuis le début des années 2000. Cette manifestation a pu voir le jour grâce à la collaboration sur la première édition de la mairie du Pont de Montvert, de la conseillère générale Sophie Pontel, qui vraiment a été le moteur sur la première édition de cette manifestation avec nous.
Alors, les créateurs sont accueillis dans des échoppes éphémères, c'est ça?
Oui, les créateurs sont accueillis dans des échoppes éphémères, mais surtout prêtées par les habitants du village. Tous les habitants du village, chaque année, reçoivent un créateur différent toutes les années, et ils leur prêtent soit une cave, soit un garage, soit une partie de leur maison pour qu'ils puissent exposer à l'abri et dans de bonnes conditions.
Alors, pourquoi des métiers d'art?
Pourquoi des métiers d'art? Parce que lors d'une évaluation sur le territoire en 2000, on avait repéré les métiers d'art comme une niche économique, puisqu'il y avait quelques artisans de métiers d'art qui étaient installés sur le canton du Pont de Montvert. Donc ensuite, on a monté une association et on a stimulé et développé ces métiers d'art. Et on a ouvert une galerie au Pont de Montvert qui est ouverte toute l'année et où il y a une jeune femme qui la tient de manière permanente.
Et vous donnez la possibilité aussi aux gens de passage ici lors de ce festival de participer à ces ateliers de métiers d'art?
Oui, les artisans, une grande majorité d'artisans, proposent des ateliers de découverte, aussi bien pour adultes que pour enfants. Il faut s'inscrire à l'office de tourisme pour pouvoir y participer.
Alors, il y a un jumelage de ce festival?
Oui, il y a un jumelage depuis 2008 avec l'association italienne Artin Fiera, qui est basée dans le Piémont, dans un village Saint-Sébastien-de-Couronne, où il y a un jumelage entre les deux mairies et aussi entre les deux associations. Cette association italienne organise au mois de septembre une grosse manifestation autour des métiers d'art avec 150 artisans. Et nous participons, nous, en tant que Français, à cette manifestation. Nous sommes en moyenne une vingtaine à participer à cette manifestation qui se situe à la mi-septembre.
Alors en plus, pour embellir ce festival, il y a des animations, des compagnies qui viennent jouer des spectacles.
Oui, nous avons confié à la compagnie Faux Mouvement, qui est une compagnie qui est installée sur le territoire du canton, la programmation de toutes les animations autour du festival. Vous pourrez découvrir donc ce soir à partir de 16h et pour deux représentations, La Fileuse sur le parvis du temple. Ensuite, il y a le jukebox éphémère qui est là toute la journée et le photomaton où vous pouvez laisser un petit message sur le quai, un petit message rigolo sur le quai, et il y a quelqu'un qui vous accompagnera pour faire ça.
Les compagnies qu'on va également retrouver samedi et dimanche.
Oui, ce seront aussi d'autres compagnies. On va retrouver une compagnie d'Arles qui fait une qui dimanche sera à l'église. On va retrouver une autre compagnie qui fait un défilé dansé le samedi. Et différentes autres animations. Et la compagnie Faux Mouvement, qui elle-même a mis en place un arbre éphémère dans une cave avec une vidéo. Il faut vite courir la découvrir.
D'accord. Également une grande vente aux enchères d'œuvres originales samedi et dimanche.
Oui. Samedi, il y aura une grande vente aux enchères. Si tout est vendu samedi, dimanche, il n'y aura pas de vente aux enchères. Donc venez samedi. Ce sont tous les artisans qui confient une pièce et elle sera vendue aux enchères. Ce sera une vraie animation réalisée par un créateur qui cette année n'expose pas, Alain Maillan, mais qui propose cette animation autour de la vente aux enchères.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Voilà, et donc je suis maintenant avec le parrain de ce festival, alors je vous laisse vous présenter.
Oui, je suis Matteo Bonafede, je fais des bijoux. Et je viens d'Italie avec des autres artisans d'art qui sont de l'association italienne Art in Fiera.
D'accord, alors expliquez-nous comment s'est fait ce jumelage, comment vous retrouvez ici au Pont de Montvert.
Oui, alors je pense 5 en avant. Le jumelage est parti avec les amis de la MAC. Tous les années, nous sommes ici pour le festival de Pont-Montvert et tous les années, dans septembre, les amis de la MAC viennent chez nous, dans l'Italie, pour un autre festival qui s'appelle Art in Fiera. Et les deux festivals sont à peu près la même, parce que l'idée que l'artisanat d'art c'est important, c'est pour les deux centrales fondamentales. Et il y a toujours beaucoup d'artisans ici qui sont très, très capables, et chez nous c'est la même. Nous voulons porter l'artisanat d'art à être intéressant pour le monde. C'est correct, vous comprenez, ça va?
C'est très correct, oui. Quelles sont les différences entre justement les artisans d'art italiens et les artisans d'art français, s'il y a des différences?
Oui. Non, je pense que nous avons seulement un pensée, et que c'est le pensée, c'est la même dans toute l'Europe. L'artisanat d'art a besoin vraiment d'être publicisato,
diffusé.
Oui, parce que c'est important, c'est un grand chance que l'Europe a pour sortir de la crise. Les petits producteurs, la créativité, c'est la base de les deux associations et de les deux nationalités. Okay. Et alors, nous avons seulement un pensée. C'est pour ça que le jumelage, ça marche très bien. Nous sommes à peu près la même. Oui.
On va longer la rivière le long du pont de Montvert pour traverser le village dans un premier temps et se retrouver en face et aller à la rencontre de ces artisans d'art. Avec sur notre droite la galerie singulière, la galerie dont nous parlait la présidente, eh bien, on va y rentrer pour voir ce qu'il en retourne. Voilà, et nous rentrons ensemble dans la galerie dont nous parlait la présidente, qui est ouverte à l'année, avec Lucie qui tient cette galerie. Bonjour.
Bonjour.
Alors expliquez-nous, cette galerie est ouverte à l'année, qu'est-ce que vous y proposez à l'intérieur?
Alors c'est la boutique de l'association qui est ouverte à l'année donc, avec des créations de tous les créateurs locaux. Donc au niveau de l'association, on a 30 créateurs qui sont représentés sur tout le territoire. Et dans l'association, on a une vingtaine de créateurs. Et dans la galerie, on a une vingtaine de créateurs qui sont là et qui présentent leurs œuvres toute l'année. Donc pour vous avez de la poterie, des couteaux, du textile, des bijoux. On a un peu tous les corps de métier. Et du coup, ça permet de découvrir l'artisanat d'art toute l'année au Pont de Montvert.
Alors peut-être nous parler de quelques objets qui sont atypiques ici dans cette boutique.
Alors on a des objets d'Yves Pellecuer, un coutelier qui est à La Vialas, donc qui est reconnu quand même nationalement, car il fait du damas et c'est lui qui fabrique son propre fer. Donc il fait tout lui-même et si vous avez l'occasion de venir le rencontrer, c'est vraiment un créateur atypique. Après, on a aussi quelques créations de créateurs italiens avec qui on est jumelés. Donc, au niveau de l'association Art in Fiera, on a des bijoutiers, des créateurs textiles qui nous laissent leurs œuvres 6 mois ou un an ici pour les découvrir également.
Alors des objets qui proviennent de tout matériau ici?
Oui, voilà. On a vraiment de tous les matériaux, de la pierre au bois, donc au textile, l'argent, de la dinanderie. On a des métiers vraiment atypiques qu'on peut découvrir sur place.
D'accord, des objets de décoration, des objets aussi, des ustensiles qui peuvent servir.
Oui, voilà, il n'y a pas que dans une galerie singulière, on a des choses singulières, mais aussi plein d'objets usuels, des vêtements pour vous habiller dans la vie de tous les jours, des petits cadeaux à offrir, un objet décoratif ou un service de table. Vous pouvez trouver vraiment ce que vous voulez.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne journée.
Très bien, alors on commence ce tour des artisans d'art ici au Pont de Montvert avec une dame que je vous laisse vous présenter.
Oui, bonjour, je suis Laetitia Metzinger-Bastien.
Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous proposez ici?
Donc moi je suis mosaïste et vitrailliste, donc je travaille un ensemble de... Je propose un ensemble de créations autour du verre, que ce soit donc le vitrail ou la mosaïque, sous des formes très traditionnelles, puisque je fais de la création et de la restauration, avec notamment les monuments historiques, mais je fais aussi de la création plus contemporaine, où je travaille la fusion, la transformation du verre.
Alors comment on travaille le verre justement ?
On travaille le verre sous plusieurs formes. J'utilise donc des plaques de verre qui sont préalablement travaillées par le souffleur de verre. Ces plaques de verre sont ensuite découpées, assemblées, montées au plomb ou au cuivre en fonction du travail. Donc ça, c'est pour le côté vitrail. Pour le côté de mosaïque, je travaille le verre. En fait, c'est de la pâte de verre. Ce sont des smalts vénitiens que je travaille à la marteline et au tranchée, qui sont coupés en cubes et assemblés pour créer les motifs.
Alors justement, vous proposez un peu de tout, ça va du cendrillon, pour dire, à des bouteilles écrasées, à des pendentifs. Décrivez-nous un peu les objets pour nos auditeurs qui ne peuvent pas les voir.
Alors, au niveau de l'atelier, là, vous avez donc du vitrail traditionnel monté au plomb ou au cuivre en fonction, donc avec des choses assez contemporaines ou plus figuratives. Et après, au niveau des petits objets, on est plus sous une forme de travail ludique, puisque j'ai travaillé des bouteilles qui, une fois bues, en fait, ces bouteilles vides, normalement, sont jetées. Moi, je les ai réutilisées, refondues, pour en créer des petits plateaux, des petits porte-savons, voilà. Ensuite, on y voit des petits miroirs, des bijoux, toujours sous forme de verre, voilà.
Il faut longtemps pour travailler ces objets. Alors, je suppose que ça dépend justement des objets, mais est-ce qu'il faut beaucoup de temps de travail en amont?
Alors, pour certaines choses telles que les vitraux, oui, puisqu'il y a toute une préparation en amont, justement, de croquis, d'élaboration de la maquette, et puis de la réalisation des cartons pour la coupe des verres, etc. Pour tout ce qui est objet plus ludique, la préparation consiste à régler le four. C'est-à-dire que on peut faire, des fois, on peut passer 2-3 mois à faire des essais pour trouver les bonnes températures, les bons palier de stabilisation pour arriver à l'idée qu'on se fait de l'objet final. Voilà. Une fois que ces paliers sont mis en place, après, c'est un travail d'enfournement et de modification de l'objet à chaud. Voilà. Mais ça prend peu de temps.
Vous utilisez un four traditionnel ?
C'est un four fusing, donc c'est un four spécifique à la fusion du verre.
D'accord. Vous faites ce travail à l'année ?
Je travaille à l'année, oui, c'est mon travail à temps plein, et plus qu'à temps plein, puisque je travaille actuellement plus de 15 heures par jour. Et voilà, donc c'est effectivement un travail à temps plein.
Voilà, on continue notre chemin, on passe deux encablures de portes, et on se retrouve avec Elisabeth Mézières, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors vous proposez du travail par rapport au bois?
Au bois régionaux, oui, je travaille les bois régionaux et je tourne en bois vert.
D'accord, donc expliquez-nous qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu ici comme création.
Vous pouvez trouver de la vaisselle utilitaire, donc alimentaire et utilitaire, ainsi que quelques pièces de déco tournées en mi-coucoulier, en transparence. Voilà, je joue sur la transparence, les bois tournés très fins et les déformations naturelles.
D'accord. Vous utilisez quel matériel pour travailler le bois ?
Un tour à bois et des gouges, des râpes, voilà. Tout.
D'accord. Vous m'avez dit en préambule que c'était donc des bois de la région.
Oui, uniquement des bois de la région. Donc vous pouvez trouver des fruitiers, du micocoulier, du chêne vert, tous les bois qui se prêtent à la vaisselle en fait, avec une utilisation alimentaire, donc des bois robustes et alimentaires, donc pas toxiques. Voilà.
Alors je suppose que c'est une passion pour vous. D'où vous est venue cette passion de travailler le bois ?
Comme ça, je ne sais pas trop.
Ça vous est tombé dessus un jour et...
Oui, c'est un peu ça, oui.
D'accord. Vous êtes une créatrice qui est située où ?
À Chamborigo, dans le Gard.
D'accord. C'est la première fois que vous venez au festival ?
Non, c'est la troisième année.
D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous remercie, bonne journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
Voilà, on va continuer notre cheminement dans les rues du pont de Montvert pour retrouver Kiyoko Osoda qui crée dans son atelier des bijoux d'argent. Voilà, c'est à peu près une vingtaine de mètres d'Elisabeth Mézières. Voilà, Kiyoko Osoda qui est dans son atelier. Kiyoko Osoda, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, qu'est-ce que vous présentez ici comme création ?
Nous sommes souffleurs de verre à Rouilly dans le 36, l'Indre, voilà.
D'accord, donc vous travaillez, ça va de tout à tout, des bijoux aux tasses, c'est ça ?
Oui, voilà, donc on travaille beaucoup sur les bijoux, mais par contre le soufflage, on travaille beaucoup pour les vases, des services de table, voilà.
D'accord, donc quel matériel vous utilisez pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, pour souffler le verre ?
Bah, on utilise la canne hein, pour souffler. Et puis, évidemment, il faudra un four pour fusionner le verre.
D'accord. D'où vous est venu ce métier, même cette passion ?
D'où ? Ben, je ne sais pas.
Ça vous est tombé comme ça un jour dessus ? Ça vous a plu ? Vous avez continué ?
Voilà, tout à fait, ça me plaît.
D'accord. Il faut combien de temps de travail ? Donc, ça doit dépendre des éléments. Oui. Mais, par exemple, pour ces pièces-là, si vous pouvez nous les décrire, nous expliquer le temps de travail.
Nous presse-papier, celui-ci, et à peu près autour de 15 minutes, 15-20 minutes. Voilà. Et assez rapide. Hein, il faut travailler assez rapidement. Sinon, le verre, ça va froidir trop vite. Après, quand on finit la pièce, il faut mettre dans le feu de recuissant. Et jusqu'à lendemain matin.
D'accord, pour laisser refroidir et que ça prenne forme ?
Voilà, et tranquillement, sinon ça casse tout de suite, hein, si on laisse dehors.
D'accord, et les effets de couleurs à l'intérieur, comment vous les faites ?
On tire une baguette torsadée là, de couleurs, après on mélange et on ajoute le verre transparent à l'extérieur, deux fois. Comme ça, ils sont prisonniers dans le verre, dans le massif.
Il y a de moins en moins de souffleurs de verre. Vous sentez pas un peu seul dans ce métier ?
Ah oui, tout à fait. Hein, en France, même dans le monde entier, parce que tellement difficile en ce moment, l'augmentation de gaz, hein, vous voyez, et c'est énorme quand même. Voilà.
Et du coup, ça engendre des coûts supplémentaires pour vous ?
Ah oui, difficile. Hein, ouais. Mais bon, on aime. Hein. On aime ce métier, donc il faut continuer. Il faut espérer. Hein.
D'accord. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie.
Merci.
Voilà donc un souffleur de verre dans les rues du pont de Montvert. Juste en face de Kiyoko Osoda, nous avons un nouvel atelier avec deux personnes cette fois-ci. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour, je suis Julie Chipot, donc je suis créatrice textile de vêtements et d'accessoires pour femmes.
Et avec vous ?
Nadine Barbus, créatrice de chapeaux et d'accessoires également.
D'accord, très bien, mais on va commencer avec vous. Donc vous créez des habits, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, je travaille vraiment uniquement en modèle unique. Voilà, je récupère des tissus, je les chine un petit peu partout. Et voilà, donc je crée, je fais tout de la fabrication, enfin de la création à la fabrication.
Donc c'est quoi en fait ? On prend des pièces, on fait la couture, on remodèle une pièce pour qu'elle devienne unique, c'est ça ?
Non, en fait, je crée tout vraiment du patron au style, enfin le stylisme. Voilà, je couds aussi. Voilà, ça vraiment, j'ai toutes les compétences.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire quelques-unes de vos pièces qu'on a en face de nous et que nos auditeurs ne peuvent pas voir ?
Oui, alors donc vous avez par exemple des petites robes en jersey de coton, en manches courtes, avec pas mal de couleurs. J'utilise aussi de la résille, voilà, pour faire vraiment très danseuse. Voilà, je me suis vraiment inspirée du thème de la danse, voilà, sur cette collection d'été.
D'accord, vos créations évoluent par rapport à l'époque en fait ?
Oui, chaque année je fais un thème précis sur chaque saison en fait, hiver et été.
D'accord, et donc là le thème de cet été c'est quoi ?
La danse.
La danse. Et on peut danser en chapeau également. Vous créez des chapeaux, c'est ça ?
C'est ça, donc chapeau d'été. Qui peuvent être en sisal, en paille, chapeau de cérémonie un peu fou. J'essaie de sortir des sentiers battus, évidemment, de faire des choses un petit peu que l'on ne voit pas dans les boutiques. Et puis, chapeau d'hiver, donc là aussi, différentes matières. Ça peut être du polaire, ça peut être du crocheté, de la laine crochetée. Ça peut être du tissu, hein, tout simplement. Voilà.
Alors, pourquoi les chapeaux ?
Eh bien, c'est comme ça. Et pourquoi on est attiré ? On ne sait pas. Ça m'a toujours attiré les chapeaux, même quand je n'étais pas dans cette branche-là. Voilà, il faut que j'ai toujours quelque chose sur la tête. J'adore ça. Et je trouve qu'il n'y a pas de toilette sans chapeau. Hein. Pas de toilette finie sans chapeau.
Alors, il y a différents styles de chapeaux. Ouais, ça va vraiment de tout à tout. On va peut-être rentrer dans votre échoppe. Que vous me présentez. Ah oui, ça c'est plus des chapeaux de soirée.
Voilà, vous avez des chapeaux de soirée, de mariage, de cérémonie. Puis vous avez le petit bibi, qui est le fameux petit chapeau noir aussi, qui va sur beaucoup de toilettes. Puis il y a des chapeaux un petit peu plus fous. Vous voyez, ça par exemple, c'est du plastique. Alors mon mari est viticulteur, pour tout vous dire. Et ça, c'est ceux qui entourent les ceps de vigne pour pas que les lapins viennent les manger. Donc j'aime bien prendre des matières comme ça et m'en servir pour faire des créations.
Vous êtes basé où, vous ?
Alors moi, je suis exactement sur Saint-Laurent-des-Gouzes, près de la mer, hein, côté d'Aiguemorte. Voilà.
D'accord. Et vous, c'est la première fois que vous venez à ce festival ?
Non, c'est la seconde année. Et l'an dernier, ma foi, nous avions eu beaucoup de succès. Donc j'espère que cette année, ce sera pareil, qu'il y aura beaucoup de monde.
D'accord, je vous remercie.
C'est moi, merci.
Allez, on va poursuivre notre tour. Juste avant de partir, vous êtes situé où ? Vous êtes d'où ?
Je suis de la région toulousaine, dans le Lauragais.
D'accord, et on peut retrouver vos créations par le biais d'un site internet par exemple ?
Oui, j'ai un site internet et j'ai aussi une boutique à Revel qui s'appelle le Conciliabule. Voilà.
D'accord, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Voilà, on va poursuivre le long des quais du pont de Montvert. On va essayer de revenir vers le centre. Bonjour. Oui, juste avant de repartir, je vois que vous êtes en train de monter votre stand. Je vous laisse vous présenter.
Elisabeth Berton. Je suis feutrière.
Feutrière, c'est-à-dire ?
Je travaille la laine qui n'est pas filée, qui est juste lavée et cardée à partir de la toison, que je malaxe et que je frotte avec de l'eau et du savon. Et ça devient une matière textile non tissée, un intissé. Et avec cette matière textile, je fais toutes sortes de vêtements, d'accessoires, de sacs, de tentures, de tapis, de coussins, voilà. Je décline ce textile dans tous ses possibles qui sont assez illimités en fait.
Alors pourquoi travailler la laine brute comme ça ?
Alors moi je viens de la mode, j'ai fait des vêtements en passant par l'assemblage de la machine à coudre pendant 25 ans. Et un jour, j'ai découvert en Nouvelle-Zélande qu'on pouvait faire des vêtements sans couture. Et ça m'a totalement éblouie et j'ai eu envie de m'approprier cette technique qui est vieille, qui est la plus vieille technique textile en fait, puisque c'est bien avant le métier à tisser, bien avant l'aiguille, bien avant le tricot. En fait, on a découvert le feutre il y a environ 5000 ans, dans une vague de froid où les bergers ont eu besoin de se vêtir. Ils se sont entourés les pieds de laine, coupés directement. À l'époque, c'était pas des moutons, c'était des mouflons. Ils s'en sont entourés les pieds, les extrémités, etc., là où ils avaient froid. Et surtout sur les pieds, le frottement, c'est-à-dire par la marche, et l'humidité par la transpiration ont fait que cette laine s'est compactée. Et c'est ainsi que le feutre a été découvert, le feutre de laine. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la laine, il y a une centaine de variétés de races de moutons en Europe, en France, et que toutes les filatures ferment ou ont déjà fermé les unes après les autres. Et que l'idée, c'est de donner une nette revalorisation des laines en les appliquant à des objets et à des vêtements tout à fait contemporains.
Vous pouvez me décrire une de vos créations ?
Oui, bien sûr. Alors, je travaille avec différentes techniques. Je travaille la laine brute à partir de la toison en mèche. Je travaille également l'assemblage de laine plus douce pour aller près de la peau. Et puis, je travaille également la laine avec du tissu, que ce soit de la soie, du lin, de l'étamine de laine aussi. Et ça fait un assemblage qu'on appelle le feutre Nuno. Et ça crée une matière assez intéressante parce qu'il y a des effets 3D et c'est assez inédit. Alors, si vous voulez, je peux vous décrire, par exemple, cette veste qui est là-bas sur le mannequin. On pourrait penser que ça donne, on pourrait l'apparenter un petit peu à l'effet, un effet astrakhan pour ceux qui connaissent l'astrakhan, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, je vais vous parler du style de la veste qui est des plus classiques parce que le feutre n'est pas encore très connu. Le poil, ça fait un petit peu peur, et comme tout ce qui n'est pas connu, ça fait voilà, il n'y a pas une grande attirance de principe. Après, c'est vrai que les gens qui sont assez ouverts et qui ont envie de voir comment ça se fait sont toujours totalement éblouis de voir qu'à partir de fibres, on peut obtenir un vêtement sans couture, tout simplement. Et cette veste, elle a donc une forme très classique. Une veste tailleur, elle peut avoir 4 boutons, là c'est une commande, avec des manches très épaulées. Et le propre d'un vêtement en feutre, c'est qu'il est réversible. Donc d'un côté, on a cet aspect astrakhan avec du tissu. Ici, c'est une toile de coton qui a été malaxée en même temps que les fibres de laine. Et au moment de la rétractation, parce que effectivement, le feutre à un moment se rétracte et se structure, entraîne le coton et donne cet effet gaufré. Et de l'autre côté, donc puisqu'il est réversible, on a un autre aspect qui est beaucoup plus lisse, avec des poches, parce que pour moi, un vêtement sans poche, c'est inimaginable, et il est beaucoup plus lisse et il est beaucoup plus sombre, il est beaucoup plus anodin, on va dire, mais agréable à porter et facile à mettre.
C'est une veste qui doit être extrêmement chaude.
Absolument, c'est chaud, c'est coupe-vent, et le propre de la laine, c'est que c'est imperméable également. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps à faire pénétrer l'eau quand on fabrique cette matière. On est obligé de masser pendant de longues heures et ensuite de foulonner, de foulonner, de foulonner. Et c'est ce qui fait qu'une veste comme ça, je mets environ 5 jours pour la faire.
Ah, quand même ?
Oui, quand même.
Alors c'est une veste noire avec des reflets violets, on voit.
Oui, la toile de coton est violette et j'ai utilisé de la laine, j'ai mixé de la laine anthracite très foncée avec un bleu qu'on appelle Touareg. Ça donne un effet de chiné, noir et bleu que j'aime particulièrement.
Et pour aller avec cette veste, il y a également une cravate.
Alors la cravate, ça, c'est autre chose, c'est parce que j'étais en train de monter mon mannequin homme. Ça c'est une cravate que j'avais fait pour un défilé et c'était le père de la mariée qui portait cette cravate. Parce que la mariée était habillée en blanc comme ça et elle était accompagnée à l'entrée de la mairie par son papa qui portait cette cravate et c'était une espèce de clin d'œil parce que comme vous pouvez le voir c'est une cravate rigolote avec de la toison ici, c'est de la toison d'un mouton qui vient de Russie, de la Russie orientale, une région qui s'appelle Orenbourg et c'est une laine extrêmement douce. Oh, qui a plein d'histoires que je pourrais vous raconter si j'avais le temps. Et puis ici, il y a une autre laine. Alors là, c'est un mouton raca qui vit en Hollande et qui a une très très belle toison aussi, assez douce et des longs poils bien frisés, comme on aime.
Alors comment on arrive justement à récupérer de la laine d'un peu partout dans le monde ?
Surtout en Europe, en fait. Écoutez, comment on arrive, tout simplement en s'adressant à des filateurs, à des gens qui récoltent les toisons. Souvent, il y a même, particulièrement en Hollande et en Angleterre, des éleveurs particuliers qui ont 5-6 moutons sur leur terrain et qui vendent les toisons ou qui les gardent pour eux. C'est quand même assez rare de trouver maintenant de grosses compagnies qui vendent la laine. Moi je fais des vêtements pour la marque Lola Bastille et je travaille également avec une jeune feutrière qui s'appelle Chloé Lecou pour un label que nous avons créé il y a 2 ans qui s'appelle Morse Fell Studio, et on s'attache vraiment à essayer de valoriser les laines locales, et donc on s'adresse à des éleveurs ou à des revendeurs ou à des tondeurs aussi parfois. Au plus près de nous, soit dans le Limousin, soit en Savoie. Il y a des laines en Savoie qui sont assez intéressantes. Ou du côté de Nîmes, Arles, pour le Mérinos. Ou dans les Hautes-Alpes et plus loin en Italie.
On arrive à découvrir des nouvelles laines qui jusqu'à présent on ne connaissait pas de moutons de je ne sais où.
Alors,
dans le monde.
Je pense qu'il doit y avoir effectivement des croisements, parce que je connais cette femme par exemple dans le sud de la Hollande qui élève des Shetland. Elle est très très passionnée par son élevage de moutons Shetland, et elle a effectivement croisé des Shetland avec des Mérinos et elle a appelé ça le Chérinos. C'est Betty Strickers.
D'accord, merci. Vous êtes basée où, vous ?
À Lyon.
À Lyon. On peut retrouver, il y a un site internet pour retrouver vos créations ?
Absolument, lolabastille.com et morsefeldstudio.com.
D'accord, merci beaucoup.
Feld, c'est pour feutre en anglais.
Très bien, merci, bonne journée.
Merci, merci beaucoup.
Alors, on va continuer notre chemin après avoir parlé de laine. On va retourner vers le centre-ville du pont de Montvert, retraverser le quai. Bien, une nouvelle échoppe avec mademoiselle
Géraldine et donc mon époux Nilton. On travaille ensemble, on est créateurs de bijoux et on travaille avec des techniques de macramé.
Alors, c'est-à-dire ?
Alors, on travaille avec du fil, donc différents types de fils que l'on va combiner avec des pierres naturelles. Et ça va être des techniques de tissage, donc que des nœuds, des techniques de nœuds.
D'accord, donc des colliers, des bracelets, ça va de toutes sortes de bijoux ?
Oui, c'est assez varié. Ça va du bijou de tête à la chaîne de pied, au collier, des parures, des choses plus discrètes. C'est très très varié.
D'accord. Ça fait longtemps que vous travaillez les bijoux de cette manière-là ?
Alors moi, ça fait 6 ans et mon époux, ça fait 15 ans. Donc ça fait un certain temps qu'on le fait. On a pas mal voyagé et on voyage maintenant du coup en France. On fait différentes expositions et on est très inspiré par nos voyages, par la nature. On le retrouve d'ailleurs beaucoup dans notre travail.
D'accord, uniquement des pierres vous utilisez ?
On utilise également des graines, des coquillages, beaucoup de matériaux naturels.
D'accord, et justement comment on fait pour trouver ces pierres, ces matériaux naturels ?
Et alors soit ça peut être au hasard des promenades, ou alors avec des tailleurs de pierre ou des lapidaires qui les travaillent pour nous.
Vous voyagez beaucoup, mais à l'année vous êtes basé où ?
On est à Toulouse.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Allez, on remonte totalement le pont de Montvert pour aller sur la place de l'église, retrouver Alison Ginou, Ferron Ridard, Catherine Chauvin qui fait de la maroquinerie et Marina Gioconda pour des jeux. Voilà arrivé sur le quartier de l'église où on retrouve Alison Ginou qui fait de la ferronnerie d'art, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça. Bonjour à tous.
Voilà, alors jusqu'à présent, on a vu du travail sur bois, du travail de textile. Ça y est, on rentre dans le dur, on pourrait dire, dans le métal. Expliquez-nous un peu, vous, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, je propose des objets décoratifs, du mobilier et de la sculpture en fer forgé. Donc, tous les objets que je propose à la vente sont faits, ou presque tous, avec du fer à chaud, travaillé à chaud à la forge, en fait.
Alors, expliquez-nous justement votre technique de travail, comment on bat le fer ?
Alors, je mélange les techniques traditionnelles et des techniques plus modernes de travail du fer. Donc, la technique traditionnelle, c'est vraiment la forge et les assemblages faits à la forge aussi, tenons mortaises, rivets, etc. Donc là, ben, on fait chauffer du fer à 1500 degrés et une fois qu'il est bien chaud, on tape dessus avec un marteau, une enclume. Ça, ça n'a pas changé. Et après, des techniques plus modernes comme le découpe au plasma, les techniques de soudage, etc. Où là, ça, en fait, du coup, les deux alliés, ça permet vraiment une grande liberté au niveau des techniques et du coup des résultats.
Voilà, parce qu'il y a des grosses œuvres et il y a des œuvres plus petites avec un travail qui, me semble-t-il, est plus minutieux.
Le travail n'est pas toujours forcément plus minutieux. C'est, après, c'est la taille des outils en fait, qui va changer. Bon, le marteau, lui, reste toujours le même, mais après, c'est vraiment tout ce qui est... Tout ce qui est technique d'arrasage, meulage, etc., où là, ça va être beaucoup plus fin. Oui.
Vous pouvez nous décrire quelques objets que l'on a ici ?
Alors, on a des petites boîtes rondes avec des petits couvercles en cuivre, en laiton ou en inox. On a des arbres porte-bijoux faits en fer forgé avec de toutes petites volutes au bout des branches pour suspendre vos bijoux, mesdames. Nous avons des coupelles qui peuvent servir à peu près à tout, sauf à l'alimentaire. Des bougeoirs, après on a un grand paravent en fer forgé, des grandes portes avec une croix occitane, des habillages de miroirs, des petits bijoux, des plateaux et un bestiaire. Ah, ça c'est la surprise.
Alors par exemple, le paravent qui est quand même imposant, c'est combien de temps de travail pour arriver à une pièce comme celle-là ?
Sur le paravent, en atelier, on a 120 heures de travail. Sachant qu'il y en a quand même pas mal en préparation en amont, quoi. Dessin technique, préparation des gabarits, etc.
Voilà, on change juste de pièce avec une salle qui propose plein de jeux. C'est le Circo Gioconda, c'est ça ?
Oui, c'est Gioconda.
D'accord, je vous laisse vous présenter.
Oui, nous on est des artisans de l'Italie, qui viennent de l'Italie, précisément de Milan. Il y en a eu un début de, comme artisanat lié à le jeûne. Et à un certain sens, le circus et à la jonglerie. Et on a commencé à faire des jeux pour eux. À penser surtout des jeux pour eux et à les faire. Par exemple, on fait de farfalla, on appelle, mais c'est... s'y avvicine, je ne sais pas comment dire, ça ressemble un peu à les bolas, où par exemple on fait un magic wand, una bacchetta magica.
Oui, voilà. Je magique, oui, on va aller le voir.
On va aller voir, c'est très simple, c'est surtout des jeux de mouvement, c'est une très simple bacchetta magica, qui ça sert pour jouer, quoi, pour en se souvenir que chaque jeu, c'est toujours un rapport à l'utilisation qu'il fait soi-même. Nous, on donne des conseils, quoi.
Voilà.
Il y a c'est... aussi des gants, des petites mains, mains pour jouer, quoi, qui ont des fils. Aide-moi parce que
Il y a des gants avec des fils tout au bout des gants à la place des doigts pour pouvoir faire des jeux d'images. Le bâton magique qu'on avait tout à l'heure, c'est le même principe. C'est un bâton avec une longue ficelle accrochée au bout pour faire des tours un peu toutes sortes de qui ressemblent à la gymnastique. Et là, il y a du travail sur bois.
La création, c'est on l'appelle pistola sparafiori, qui c'est un shot flower. En français, je ne sais pas comment on dit.
C'est un tir de fleurs, c'est un pistolet où on peut tirer des fleurs.
Parce qu'on a pensé aussi à le jeune mâle, enfin le jeune qui veut...
Le jeune garçon.
Tirer. Et alors, en fait, ça, c'est une simple pistolet en bois. On a utilisé un tube, on a fait au travail. Et on a mis à la place d'un normal...
À la place d'une balle.
D'une balle, une petite fleur. Qui on va essayer à tirer maintenant.
Et qui marche.
Et qui marche.
Voilà des jeux
qui... Pour la joie des gosses, quoi. Pour la joie de...
Et des jeux qui sont empreints de poésie, on pourrait dire.
Merci. C'est toi, vu un peu notre production, tu vois que t'as bien affirmé, quoi.
D'accord, ben merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Merci. Merci. Et on poursuit notre tour juste à côté avec Catherine Chauvin qui fait de la maroquinerie, c'est ça ?
Maroquinerie en chambre à air.
En chambre à air, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je recycle des chambres à air usagées et que j'en fais des sacs, des ceintures, des porte-monnaies, échiquiers, etc. Toutes petites maroquineries et des sacs.
D'accord. Vos créations sont où, là, exactement ?
Elles sont à l'intérieur.
On va aller les voir ?
Ouais.
Allez, rentrons. Alors, pourquoi des chambres à air ? D'où est venue cette idée ?
L'idée m'est venue à cause de l'inflation sur le prix du cuir.
Et du coup
L'idée du recyclage me plaît bien et de réutiliser un matériau qui est destiné au rebut et qui est en fait une belle matière.
Et c'est une matière qui n'est pas trop difficile à travailler ?
C'est une matière qui est un peu rétive, oui, parce que déjà, on peut pas faire de la série. Il faut faire quasiment des pièces uniques parce qu'il faut s'adapter à la matière, à la forme de la chambre à air, à sa taille, à son épaisseur, qui sont très variables. Donc ça nécessite, on ne peut pas faire un gabarit et faire 10 fois le même sac, quoi.
Oui, chaque sac est unique au final.
Voilà, chaque sac est unique. Ouais.
D'accord.
Et en plus, je m'applique à les rendre uniques par des décorations différentes. Et voilà. J'inclus un peu de toile cirée mexicaine, qui est très colorée. Pour avoir un peu de couleur aussi.
Voilà. Vous dessinez avant le sac ou vous arrivez, vous travaillez directement la matière pour le créer et suivant la forme qu'il prend, le sac sera différent ou c'est calculé à l'avance ?
Disons que des fois j'ai une idée dans la tête et je la pose sur un papier, mais que la plupart du temps, ce qui sort n'a pas grand-chose à voir avec le dessin. Voilà.
C'est combien de temps de préparation pour arriver à un sac comme ça ?
C'est très difficile à dire parce que dans la mesure où c'est des pièces uniques, quand ça se passe bien, ça peut être une journée. Quand ça se passe moins bien, j'y reviens plusieurs fois. Donc je suis incapable de dire combien de temps parce que c'est à l'inspiration.
D'accord, très bien. Je vous remercie. Vous êtes basé où, vous ?
Moi, je suis à Seine-les-Alpes, donc je suis très loin d'ici.
Voilà, on a juste à traverser la route et on tombe sur une nouvelle échoppe avec de nouveaux artisans, dont...
Bonjour, Marie Skevart, je suis céramiste et voilà, c'est des pièces aux engobes dessinées, faites à la main. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, c'est coloré, il faut venir voir.
Vous faites tout de A à Z, la pièce, la peinture ?
Oui.
Alors peut-être parlez-nous un peu de votre travail, comment on arrive à faire des pièces comme ça ? On utilise quelle technique ?
Alors moi je travaille avec la terre qui sert d'émail, donc c'est assez naturel et avec des oxydes différents on arrive à plus ou moins se rapprocher avoir des couleurs différentes quoi, et c'est de la faïence, donc voilà.
La peinture c'est de la peinture à l'huile, c'est quoi ?
Non, c'est de la peinture pour... c'est de l'émail, en fait, c'est spécialement pour céramique. Mais c'est vrai qu'après, voilà, avant, moi, je faisais de la peinture, donc j'ai transposé... je suis passée de l'huile à l'émail.
Voilà, alors des peintures, le plus souvent, des visages ?
Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça qui m'inspire.
D'accord, donc à venir voir, ça c'est à l'entrée de la ville, vous êtes pile la première artisante ici.
Voilà, c'est ça, on est au numéro 4.
D'accord, merci beaucoup.
De rien, merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée. Voilà, on va redescendre complètement le village, retraverser le quai pour se rendre sur le quartier du Closelet, la grande rue, la rue des Jardins et enfin le temple. Voilà, on arrive en haut du pont de Montvert et on va rentrer dans le temple du pont de Montvert où se trouvent des expositions avec plusieurs artistes de Laurent Berman et notamment de Jacques Almerge qui est ici présent. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous exposez ici dans le cadre du festival. Expliquez-nous, parlez-nous un peu de votre travail.
Alors c'est une peinture matiériste, donc avec des matériaux récupérés du réel. Hein, donc je pars d'objets que je trouve ci et là, et je les installe sur la toile et j'établis un graphisme tout autour qui va donc permettre d'organiser la surface d'une certaine façon. Voilà.
D'accord, donc du coup, ça devient des tableaux en relief.
Alors, c'est des tableaux qui sont effectivement à la limite de la sculpture. Là est le problème. Donc, essayer de pouvoir concevoir l'espace sans trop sortir du motif. Voilà, donc c'est un travail évidemment abstrait qui est fait avec toutes sortes de matériaux. Ça peut être du plâtre, du sable, de la colle, tous les matériaux récupérés.
D'accord, très bien. On peut le rapporter au courant support surface ou pas du tout ?
Non, le courant support surface, lui, est un courant différent. Si on prend l'exemple de Viala, qui va donc organiser sa surface en travail de couleur avec une écriture, une trace systématique sur la surface pour valoriser la couleur et travailler sur la couleur. Là, c'est plutôt un travail sur la matière et un travail de prospection dans la matière.
D'accord, combien de toiles on peut retrouver ici ?
Alors il y a 35 travaux, 35 toiles, dont de différents formats. Voilà, 35.
D'accord, merci beaucoup.
Mais de rien, je vous en prie.
Voilà, on va redescendre la rue du Temple pour revenir vers les quais le long du Tarn. Alors de la peinture, mais également de la photographie dans une nouvelle échoppe. Je vais vous laisser vous présenter.
Oui, bonjour. Donc je suis Thierry Beson et donc je photographie de la nature dans les Cévennes.
D'accord. Donc vous êtes là pour proposer vos photographies. Dites-nous-en davantage. Donc c'est quoi ? C'est des photographies de paysages, c'est ça ?
Alors, c'est des photographies qui ont attrait à la nature. Donc il y a des photos de paysages, mais aussi des photos de faune et un petit peu de flore.
Quels sont les lieux que vous photographiez ?
Alors, c'est dans toutes les Cévennes. Alors, ça va des vallées Cévenoles avec le côté schiste des vallées Cévenoles, le mont Lozère avec le côté granit, et aussi le Cosse-Méjean, les gorges du Tarn et de la Jonte avec le côté calcaire.
Alors, pourquoi des paysages et pas des portraits, par exemple ?
Alors, moi, à la base, je suis très attiré par la nature, donc c'est plutôt un travail sur la nature. Et donc, effectivement, j'ai un futur projet d'édition d'ici un an ou deux, où là, les gens seront pris en photo. Mais là, pour le moment, cette exposition a trait à la nature.
D'accord, alors vous jouez avec la nature, les couleurs, on voit beaucoup de jeux de lumière dans vos photographies.
Voilà, la lumière a un côté très important en photographie. Et donc, effectivement, j'essaie d'avoir des lumières assez intéressantes, soit très tôt le matin, soit tard le soir, mais aussi des ambiances avec de la brume, des ambiances hivernales, automnales. Voilà, donc un petit peu, on va dire un petit peu de tout.
Vos photographies sont brutes ou vous les retouchez après coup ?
Alors, les photographies sont très peu retouchées. Il peut m'arriver d'assombrir un ciel pour donner un côté un peu plus dramatique, mais la majorité des photos sont très peu retouchées. On remonte un petit peu le contraste et puis on fonce un petit peu le ciel comme on faisait avant en noir et blanc.
D'accord. Vous travaillez sur quel type d'appareil photo ?
Donc, j'ai un Nikon D800.
Et combien de photographies sont proposées ici dans le cadre de cette exposition ?
Alors, cette exposition, en fait, comporte une vingtaine de photographies. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces photos sont issues d'un livre qui s'appelle « Cévennes Nature » aux éditions Alcide, qui est dans toutes les bonnes librairies et qui comporte, lui, plus de 100 photos sur les Cévennes.
Très bien, merci.
Merci, au revoir.
Voilà, on va redescendre et on va quitter le pont de Montvert. À noter que ce festival donc, se poursuit bien entendu samedi et dimanche, le festival des métiers d'art du pont de Montvert, le 5e festival. Côté rendez-vous, des démonstrations et des expositions ont lieu en permanence et sont gratuites. Samedi, donc demain de 10h à 21h30, le dimanche 14 juillet de 10h à 20h. Des ateliers créatifs, participation, adhésion à l'association, 10€ par adulte et par atelier, 5€ par enfant et par atelier. Également, vous pouvez bien sûr vous restaurer travaille sur place avec les buvettes et les restaurants qui sont au centre-ville. Et pour toutes inscriptions ou renseignements, rendez-vous au stand de la MAC, donc, qui organise la manifestation, qui est située sur le quai en face de la boutique de l'association. Voilà, c'était les estivales de 48FM en direct du pont de Montvert.
Les estivales de 48FM.
Le Conseil Général soutient les festivals de l'été et la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez toute la programmation, les détails pratiques, des reportages et des jeux sur culture.lozère.fr. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les estivales de l'été sur 48FM.